Je vais rapidement introduire à nouveau le professeur Abbott que vous avez déjà vu il y a deux jours. C'est donc la deuxième des quatre conférences qui forment, comme je l'ai déjà dit, une tétralogie. Donc le fin mot de ce qu'il veut produire comme élément théorique essentiel sera donné progressivement et cet ensemble est effectivement très cohérent. Donc ceux qui veulent bénéficier de la substance de l'argumentation peuvent, et je pense essentiellement, considérer que la production de cette nouvelle argumentation est processuelle, c'est-à-dire que c'est à la fin qu'on comprendra la totalité de l'argumentation, ce qui est une manière aussi pour moi de vous inciter à une attention soutenue pour les quatre conférences. C'est aujourd'hui, il sera question de deux personnages essentiels, mais on verra comment, Karl Marx et Alfred Marshall, Karl Marx que je n'ai pas besoin de présenter, et Alfred Marshall, l'économiste anglais, qui a écrit les principes d'économie politique, je crois que c'est ça. Et voilà, je donne tout de suite la parole au professeur Abbott, qui, comme vous le savez, est professeur à l'Université de Chicago et l'un de nos grands collègues très réputés dans la science sociale et dans la sociologie contemporaine.
Donc, lors de ma première conférence, j'ai tout d'abord présenté la façon dont Kant approche le rapport entre faits et valeurs. J'ai montré que la séparation forte qui existe sur le plan transcendantal kantienne entre les faits et les valeurs peut être en partie surmontée en réconciliant ces deux aspects à travers l'acte de juger. En effet, juger implique de mobiliser des idées transcendantales et de les appliquer au monde sensible, à notre vie de tous les jours. Ensuite, je me suis tourné vers Durkheim et j'ai expliqué comment il a réagi à cette position kantienne, c'est-à-dire en refusant complètement de considérer le plan transcendantal. À la place, Durkheim invente un nouveau plan. Ce plan est censé être empirique et naturel et par conséquent en proie au changement, mais diffère pourtant de la réalité quotidienne dont nous faisons l'expérience, ce qui le rend donc d'une certaine manière transcendant, malgré le rejet de ce terme par Durkheim. Ce plan, c'est celui de la société, est donc localisé à l'intérieur du monde sensible. Ce plan permet simultanément à Durkheim de prouver les catégories de la connaissance qui sont censées être immuables et celles de la morale qui, elle, évolue lentement au fil du temps. Durkheim achève donc l'exposé de sa position sur une contradiction. D'un côté, selon lui, on peut trouver à tout moment dans la conscience collective d'une société donnée ce qui constitue une morale absolue. Mais de l'autre côté, en raison de son enracinement dans l'histoire, cet absolu moral est tout à fait susceptible d'évoluer sous l'effet conjoint de l'accroissement de la division du travail et du délitement des institutions qui participent à maintenir la solidarité au sein de la société. Mais comment quelque chose qui relève de l'absolu peut-il admettre le changement en son sein? Pour le dire autrement, comment peut-on voir dans ce phénomène instable la racine de ce qui constituait une morale absolue, une morale véritable? De plus, selon Durkheim, c'est dans la religion que l'on peut trouver le fondement des catégories immuables de la connaissance objective. Or, comment cela pourrait-il être possible, étant donné que la religion fait, selon toute vraisemblance, partie de la société et, par conséquent, elle aussi sujette au changement au cours de l'histoire. Aujourd'hui, ma conférence va porter précisément sur ces questions de changement et de stabilité et les paradoxes qu'elles soulèvent. En effet, ces paradoxes émergent systématiquement lorsque l'on adopte une approche historiciste, que celle-ci porte sur le problème des faits et des valeurs, que sur la politique ou encore sur l'économie. Pour mener à bien et dans le temps imparti cette entreprise, j'exposerai les différences qui existent entre l'historicisme et la théorie générale du monde social qui se présente comme sa principale concurrente, la théorie de l'économie scientifique. Après avoir étudié ces deux approches successivement, je proposerai une approche alternative qui, pour corriger leur défaut rédhibitoire, emprunte à ces deux approches tout en acceptant de sacrifier certains de leurs apports majeurs. Cette perspective, c'est celle du processualisme Et ces conséquences vis-à-vis du problème des faits et des valeurs se révéleront plus fortes qu'attendues. Les racines de l'historicisme sont multiples. On les trouve ainsi en partie dans la théorisation du concept de nation, dans les idées des romantiques allemands qui se sont opposés au classicisme français, et dans les démarches interprétatives qui cherchent à remplacer l'approche rationaliste. L'historicisme n'est évidemment pas un courant de pensée purement allemand, mais c'est la version allemande de l'historicisme qui a fait autorité, et c'est Marx qui en a été le promoteur le plus influent. De manière générale, la démarche historiciste plaide pour aborder le présent comme le résultat d'un processus long et mu tout de long par la même dynamique, un processus régi par des lois et des régularités que l'investigation minutieuse peut révéler. Passons désormais en revue quatre des aspects principaux de cette démarche de manière à mieux la comprendre. Nous examinerons successivement son ontologie, sa conception de la particularité, puis de la causalité et enfin de la temporalité. Tout d'abord, l'ontologie sociale des historicistes repose sur un monde composé d'individus qui apprennent tout au long de leur vie jusqu'à atteindre la maturité, suivant en cela l'idéal du Bildung. Cet idéal dote l'homme des lumières conçues comme universelles par la négation de ses caractéristiques particulières, d'une véritable individualité chère aux romantiques, autrement dit, de caractéristiques particulières qui le définissent en plus positif plutôt qu'en négatif. Ces individus qui ne cessent d'apprendre sont eux-mêmes membres d'unités plus grandes, les peuples ou völker. Ces unités sont des assemblages complexes composés de groupes divers, mais unis par la civilisation qu'ils partagent. Comme les individus, ces assemblages évoluent et se développent au cours du temps, suivant en cela une logique interne plus ou moins analogue à celle de Bildung. Cette logique interne conduit sur le long terme à l'essor, puis au déclin de ces assemblages. Au sens aristotélicien du terme, il s'agit d'un entélechie propre à chacun des peuples. Venons en second lieu au régime de particularité que partagent les historicistes. Ce qui est particulier ici, c'est une sorte d'universel local qui caractérise tous les membres d'un peuple ou d'une culture et, au niveau individuel, qui caractérise toutes les actions d'un individu particulier, aussi différentes soient-elles les unes des autres. Un peuple ou un individu est particulier d'une façon qui lui est universelle. Ce régime de particularité ne se résume pas à complexifier ce qui, à l'origine, n'était qu'une simple coquille vide. En d'autres termes, il ne s'agit pas, par exemple, de saupoudrer quelques grammes de genre, d'âge ou de race à un individu abstrait au sens des Lumières, c'est-à-dire universel mais sans caractéristiques distinctives. Non, ce régime de particularité concerne tous les individus et tous les peuples à l'état de nature. Ils sont particuliers tout en étant complexes. On peut les simplifier dans le cours de l'analyse, mais il ne s'agit alors pas de soustraire des variables, ce qui reviendrait simplement à inverser la démarche statistique qui consiste implicitement à additionner les particularités. En troisième lieu, les historicistes considèrent la causalité de manière téléologique. Pour eux, les individus et les groupes sociaux sont mus par une dynamique qui leur est propre. Ils actualisent ainsi ce qui leur était, d'une certaine manière, intrinsèque. Dans quelle mesure cette entelechie est-elle présente dès l'origine? Les historiens sont en désaccord à ce sujet, mais cet élan, cette impulsion interne est toujours présupposée. Comme je l'ai dit plus tôt, cette conception déterministe de la causalité qui régirait le destin des groupes sociaux se retrouve vaguement au niveau individuel, chaque auteur en ayant sa propre version. Certes, Meinecke a laissé entendre, en prenant l'exemple de Goethe, qu'un individu pouvait très bien suivre une trajectoire personnelle complètement opposée à celle de l'évolution de la société dans son ensemble. Cependant, parmi les historicistes, c'est Marx qui se révéla au bout du compte le plus influent, et il se trouve que c'est également lui qui se montra le plus sévère dans son analyse lorsqu'il s'est agi de traiter des individus. Les principaux acteurs de sa théorie, ce sont les entités sociales. Les humains ne représentent que de simples exemplaires individuels de ces entités sociales. Certes, Marx était un historien trop honnête pour refuser d'admettre, quand le cas se présentait, que les individus disposaient en réalité d'une certaine capacité d'agir. Mais, impitoyable, il fit un sort à ces situations en se contentant après coup d'effectuer quelques ajustements à sa théorie. Finalement, le quatrième et dernier concept, celui de la temporalité, est celui qui se trouve au cœur de la démarche historiciste. Pour les historicistes, le présent constitue essentiellement une conséquence du passé, et notamment de l'élan interne par lequel le passé a produit ce présent. En d'autres termes, l'approche historiciste implique de recourir fortement à la narration et au récit de manière générale. Les listes d'événements ou la récitation des faits sont bannies par les historicistes. Ceci approche le passé en hiérarchisant les différents facteurs. Au niveau macro, les empires ou les modes de production déterminent au niveau micro, cette fois, les individus ou les variations temporaires du prix de marchandises. Voilà pour l'historicisme. C'est une approche riche et convaincante et nous devons désormais jauger sérieusement à la fois ses qualités et ses défauts. Commençons par les qualités. D'un point de vue ontologique, l'historicisme présente un avantage certain. En effet, cette approche part du principe que les individus sont des êtres complexes, dotés d'une épaisseur biographique et qui évoluent considérablement au cours du temps. Il en va de même d'entités plus larges, comme les nations, les classes sociales, sur lesquelles l'attention des premiers historicistes s'était concentrée. Il en va ainsi également de nombreuses autres entités, telles que les différentes générations, catégories ethniques, groupes religieux, etc., que les historicistes ont étudié plus récemment et ont d'ailleurs même souvent contribué à faire exister. L'historicisme s'intéresse au monde réel et pour cela conserve comme catégorie d'analyse les unités réelles qui composent ce monde. Autre force de l'approche historiciste, sa conception de la particularité. En effet, les historicistes ne réduisent pas les qualités particulières à de simples attributs qui l'ont saupoudré sur des individus ou des entités autrement privées de caractéristiques propres. Non, les historicistes prennent ces qualités particulières au sérieux, c'est-à-dire qu'ils conservent dans l'analyse la complexité de leurs acteurs. Considérer ces acteurs comme particuliers tout en étant complexes, comme le fait l'historicisme, semble davantage correspondre à la réalité empirique qu'une approche additive de ces particularités qui est, par exemple, privilégiée par les économistes. Enfin, c'est évidemment en prenant également au sérieux la question du temps que l'historicisme a révélé la force de son approche. En effet, les historicistes ont apporté un éclairage convaincant sur un vaste éventail de comportements humains et ont théorisé de manière nuancée la façon dont divers facteurs ont pu influencer le cours de l'histoire. Malgré tout cela, la démarche historiciste soulève de sérieux problèmes. D'abord, elle cherche très souvent à proposer un récit ininterrompu et cohérent. Cet objectif répond généralement à des intérêts politiques immédiats. Mais pour qu'un récit soit ininterrompu et cohérent, il faut bien que son sujet principal ne varie pas au cours de la narration. Si l'historicisme s'intéresse aux particularités, il néglige donc inévitablement toutes les particularités d'individus et de groupes dont la prise en compte viendrait menacer le caractère linéaire et unifié d'un tel récit. Ainsi, le récit proposé par les historicistes porte exclusivement sur les péripéties d'un type de particularités spécifiques en approchant de manière unidimensionnelle la nation, les femmes, les médecins, les célibataires, et j'en passe. Autrement dit, la façon dont l'historicisme approche la question de la particularité est intrinsèquement limitée. Cette approche a ainsi tendance à choisir une différence parmi toutes les différences possibles et à en faire le fil conducteur de son récit. Venons-en maintenant à la question de la causalité. L'historicisme pêche en effet grandement dans son traitement des liens entre structures sociales et capacité d'agir des individus. Certes, il serait faux de dire que pour tous les historicistes, les individus sont étroitement déterminés par des forces sociales de grande ampleur. Nous venons d'en voir un exemple dans la description que fait Meinecke de Goethe. Plus généralement, dans l'idéal de Bildung, la société et l'individu se développent en interdépendance, mais sans que l'une détermine l'autre. Mais, dans sa version marxiste, l'historicisme fait des individus des êtres très contraints. La tendance globale de l'historicisme est ainsi de privilégier les forces sociales de grande ampleur et les grandes dynamiques sociales, ce qui conduit inévitablement à considérer l'individu comme un agent contraint plutôt que libre. Passons enfin à la question de la temporalité. Ici, ce qui pose le plus problème aux historicistes, c'est que le passé est révolu. Bien sûr, on en trouve des traces dans le présent, dans la mémoire, dans les corps, dans les archives et dans la structure sociale qui ce passé nous a légué. Mais le passé ne peut nous dominer qu'à travers ses traces, et celles-ci ne peuvent s'actualiser que dans le présent. Marx avait tort, les nuages du passé ne menacent pas de produire de tonnerre, ce ne sont que de simples nuages. Après tout, depuis 1870, l'Allemagne a bien changé de régime tous les 35 ans. La France, tous les 15 ans depuis 1791. La plupart des grandes forces historiques semblent ainsi se dissiper assez rapidement. Dans ses écrits, Marx se fait le prophète de la prise de pouvoir inéluctable du prolétariat, et le fait que cette prophétie ne se soit pas réalisée est une autre bonne illustration de la façon dont les historicistes échouent dans leur traitement de la temporalité. En effet, le futur leur reste hors de portée. Ceux-ci ont consacré tellement d'énergie à insister sur le caractère inévitable du présent que lorsqu'il s'agit de prédire un futur encore incertain, ils sont à plat et ne parviennent pas à réinjecter une dose de liberté aux acteurs de leur récit. Les historicistes sont alors semblables à des statisticiens qui auraient trop parfaitement ajusté leur courbe aux données. Venons-en à ce qui est peut-être considéré comme l'autre vision du monde social, celle des scientistes sociaux. Au sein des disciplines qui font les sciences sociales, c'est surtout l'économie qui se donne pour projet de mettre au jour ce type de loi scientifique. Encore une fois, nous examinerons successivement l'ontologie de l'économie, sa conception de la particularité, puis de la causalité, et enfin de la temporalité. Tout comme l'ontologie de l'école contractualiste, l'ontologie des économistes consiste en des acteurs rationnels, indépendants et identiques les uns aux autres, et ce sont leurs actions qui constituent les événements du monde social. Toutes les entités sociales sont formées, comme dans le contractualisme, suite à des accords passés entre des individus. On part du principe que les contractants se font mutuelle confiance, mais que, si nécessaire, des dispositions légales sont prévues afin de garantir les termes de contrat. Dans l'approche économique, néanmoins, les acteurs possèdent bien des caractéristiques particulières. C'est ce qu'on appelle des préférences. Mais les préférences de ces acteurs, postulent les économistes, sont modélisables de la façon suivante. Elles peuvent être classées sur une échelle unique, le célèbre numéraire. Surtout, l'économie comme système théorique considère ses préférences comme des éléments tout à fait exogènes et ne prête pas la moindre attention à la façon dont les différents types de particularités peuvent s'imbriquer, que ce soit dans les rapports entre individus ou chez un même individu. En d'autres termes, les économistes ignorent volontairement et simplement ce qui constitue l'objet de disciplines comme la sociologie, l'anthropologie et la psychologie. De plus, en raison du caractère exogène des préférences économiques, on ne peut en connaître l'histoire. Par conséquent, tout comme dans l'approche contractualiste, les acteurs du système économique sont en premier lieu dénoués de toute épaisseur historique. Les économistes peuvent s'intéresser à la biographie d'un acteur en tant qu'elle constitue une donnée empirique, mais ils ne s'y intéressent qu'au moment où les individus doivent se projeter dans le futur et prendre des décisions économiques, car c'est alors ce passé qui permet d'expliquer les ressources dont ces individus disposent pour effectuer des choix. Cependant, économistes et historicistes conçoivent très différemment la notion de particularité. Pour les seconds, en effet, les individus sont par défaut des êtres complexes et la particularité est une propriété que tous partagent et qui est par conséquent universelle. A contrario, pour les économistes, les individus sont également universels, mais ils n'ont pas de contenu biographique. C'est de façon additive que les économistes traitent des caractéristiques particulières des individus. Pour effectuer des prédictions, il s'agit alors de prendre en compte le minimum de paramètres différents sans compromettre la robustesse du modèle. Troisième notion, la causalité. En économie, il s'agit bien sûr d'étudier la façon dont les individus se retrouvent à choisir entre un nombre limité d'options possibles. Les économistes se concentrent donc essentiellement sur la causalité efficiente, au sens aristotélicien du terme, et cela alors même qu'ils ont bien conscience que les individus font des choix sous un certain nombre de contraintes, qui constituent ici des causes structurelles. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout dans la conception qu'ont les économistes de la causalité, c'est que celle-ci est intégrée à l'écoulement du temps. Ceci nous amène à notre quatrième concept, celui de temporalité. Pour les économistes, toutes les causes agissent dans le présent, mais ce présent peut avoir différentes durées, comme l'a joliment formulé Alfred Marshall. Il y a la temporalité du marché, où ce qui compte est la disponibilité des marchandises. Il y a la vision à court terme, c'est-à-dire la maximisation de la production compte tenu des ressources dont on dispose. Et il y a enfin la vision à long terme, c'est-à-dire l'investissement de capitaux. Mais ces trois durées ne se succèdent pas. Au contraire, il s'agit de trois temporalités simultanées, toutes ancrées dans le présent, mais un présent différent en fonction du type de décisions qui y sont prises. Et à l'inverse de la façon dont Bergson conçoit la durée, ces trois présents ne comprennent aucun passé newtonien. Les économistes ne s'intéressent au passé que dans la mesure où il permet de mieux comprendre les ressources que les acteurs investissent pour faire des choix dans le présent. Voici donc comment fonctionne la causalité des économistes. Les possibilités d'action sont contraintes par la façon dont on s'imagine et se projette dans le futur. Ces possibilités d'action sont à leur tour évaluées par les acteurs qui, en fonction des conséquences qu'ils anticipent et de leur système de préférences, établissent un classement qui aboutit à une décision d'agir de telle ou telle manière. Un économiste regarde toujours vers l'horizon, jamais dans le rétroviseur. Résumons notre propos en ce qui concerne l'économie. Cette discipline emprunte à la tradition contractualiste son ontologie largement atomiste, composée d'acteurs plus ou moins identiques les uns aux autres et considérée de façon universelle, que seules les particularités des contrats viennent distinguer. Ces acteurs sont bien dotés de particularités, mais celles-ci ne sont significatives qu'en tant qu'elles contribuent de manière variable à la construction d'une échelle unidimensionnelle où sont classées les préférences des individus. Autrement, la façon dont ces particularités se lient entre les unes aux autres ou interagissent, ainsi que leurs caractéristiques distinctives éventuelles, sont ignorées par les économistes. La causalité est largement réduite à sa dimension efficiente, bien que sa dimension structurelle soit reconnue à défaut d'être théorisée de manière explicite. La causalité se résume ici strictement à des décisions prises par des individus et des quasi-individus. Enfin, dans la conception qu'ont les économistes de la temporalité, le passé est hors sujet, excepté lorsqu'elle permet de comprendre comment les individus ont acquis des ressources leur permettant d'agir dans le présent. Rien d'autre n'importe que le futur. Les atouts de cette approche sont bel et bien nombreux, et ceux-ci ont fait l'objet d'éloges à n'en plus finir. C'est pourquoi je me concentrerai ici sur quelques-unes de ces faiblesses, et notamment celles qui me paraissent les plus dangereuses. D'un point de vue ontologique, tout d'abord, le monde réel est peuplé d'êtres qui ne sont pas des individus atomisés et qui ne se comportent pas comme tels. Ces êtres, ce sont par exemple les entreprises qui peuvent connaître des scissions, des fusions, des restructurations. Elles peuvent se transformer en nouveaux acteurs dotés de nouvelles préférences et de nouvelles ressources qui font face à de nouvelles contraintes, bien que tous ces éléments soient en partie hérités. Parmi ces êtres qui ne sont pas des individus, il y a aussi les ethnies, qui sont des groupements peu clairement délimités, mais dont nous faisons pourtant régulièrement le sujet de verbes d'action, comme si elles pouvaient entreprendre quoi que ce soit. Il en va de même pour les classes sociales. En outre, les individus aussi évoluent et changent considérablement au cours du temps, si bien qu'on peut leur étendre l'analyse que nous venons de présenter à propos des entreprises. En somme, l'économie est une discipline qui ignore que ses acteurs sont en perpétuelle reconfiguration. Autre faiblesse de l'approche économique, son traitement de la particularité. Nous l'avons vu, l'économie fait fi de la complexité ontologique de ses acteurs. Par conséquent, elle se trompe lorsqu'elle attribue les effets de certaines particularités mal délimitées, telles l'appartenance à une catégorie ethnique, à d'autres formes de particularités beaucoup plus facilement appréhendables, comme l'âge ou le sexe. De plus, les économistes se concentrent tellement sur le caractère instantané des choix faits par les individus dans le présent, qu'ils en viennent à négliger le fait que les individus deviennent de plus en plus complexes au cours de leur vie. Certes, les économistes ont pu parfois tenir compte de l'historique des habitudes de consommation d'un individu ou de son bien-être, qu'on pense par exemple à la théorie de revenu permanent. Mais en leur fort intérieur, les économistes sont mal à l'aise avec l'idée de prendre en compte les ruptures biographiques des individus et le sont encore plus lorsqu'il s'agit de prendre en compte les discontinuités que connaissent les entreprises au cours de leur existence, discontinuités encore plus marquées que dans le cas des individus. Troisième faiblesse de l'approche économique, son traitement de la causalité. Le penchant qu'ont les économistes pour les causes efficientes les conduit à sous-estimer le poids des déterminismes structurels, par exemple dans leurs travaux sur la mobilité sociale. De la même façon, les économistes ont perdu de vue que les gens agissent pour des raisons très nombreuses et très différentes. Le remarquable manuel d'Alfred Marshall regorgeait d'exemples de telles raisons avant que des économistes réductionnistes comme Milton Friedman ne fassent le ménage. Encore pire, en ayant fait des préférences des individus des caractéristiques exogènes à leur théorie, les économistes ont en grande part concéder aux autres disciplines la mission de réellement expliquer le monde social. Enfin, en matière de temporalité, l'économie est seule parmi les sciences sociales à percevoir dans le présent l'importance que revêt l'avenir. Et en se focalisant ainsi sur le futur, elle a connu de formidables réussites. Mais la négligence qu'elle manifeste vis-à-vis du passé est dangereuse. L'importance du passé ne se réduit pas au fait qu'il détermine les ressources, les attentes et les préférences avec lesquelles les individus doivent composer lorsqu'il s'agit de faire des choix. Tout cela, les économistes qui s'intéressent aux contraintes qui pèsent sur les individus et aux ressources qui sont à leur disposition, le prennent certes parfois en compte. Mais dans le présent, les acteurs économiques sont en réalité constamment en train de réécrire le passé. Ce faisant, Il crée dans le présent de nouvelles versions d'eux-mêmes, de nouvelles préférences, de nouveaux projets et même de nouveaux cadres d'action, c'est-à-dire de nouveaux marchés. Faire abstraction de cette réécriture constante est un sérieux obstacle à la compréhension du fonctionnement du monde social. Autre faiblesse de la dimension temporelle de l'approche économique, le postulat selon lequel les causes produisent des effets dans la structure sociale en suivant toutes le même tempo. Par exemple, c'est brusquement et pour toutes les parties impliquées dans l'échange qu'un marché est censé arriver à l'équilibre. A contrario, Alfred Marshall était bien conscient du fait que lorsqu'un homme d'affaires investit dans le marché, il se projette à la fois sur la court terme et sur la long terme. Marshall écrit ainsi, « Toutes ces influences mutuelles prennent du temps pour achever leur action et, en règle générale, il n'est pas deux influences qui aillent d'un pas égal. » Marshall a insisté sur le fait que la structure sociale elle-même possédait une certaine topologie. Par conséquent, les causes dont nous parlons et qui agissent à échéance variable agissent à travers la médiation de toute une série d'autres causes et d'autres effets, ce qui crée une certaine distance entre un événement donné et la conséquence qu'il finit par avoir par tel ou tel homme d'affaires dans un lieu lointain. Aujourd'hui encore, sur un marché, l'offre et la demande arrivent à l'équilibre dans un ordre donné, à la nanoseconde près, car un système informatique doit nécessairement alterner lecture et réécriture. Maintenant que nous avons longuement passé en revue chacune de ces deux approches, les défis et les objectifs d'une théorie générale du monde social sont clairs. Nous devons réussir à conserver les atouts de l'historicisme et de l'économie, tout en évitant autant que possible de reproduire leurs faiblesses. En voici les objectifs. Premier objectif, il nous faut conserver la riche ontologie dont l'historicisme a pu se valoir, une ontologie qui fournit les moyens de saisir les transformations que ces acteurs subissent au cours de leur existence. Second objectif, il nous faut considérer la question de la particularité dans toute son étendue. Nous devons prendre en compte la complexité des acteurs particuliers qui peuplent un tel monde. Il nous faut également prendre conscience du paradoxe suivant. L'expérience de la particularité est universelle. Troisième objectif, il nous faut prendre au sérieux la question de la causalité et l'économie ici nous montre la voie. Cet objectif implique de tenir compte à la fois des causes efficientes et des causes structurelles et de reconnaître dans chaque cas la portée et les limites de leur pouvoir explicatif. Quatrième et dernier objectif, le traitement de la temporalité. Il nous faut combiner l'analyse du passé et l'analyse du futur, c'est-à-dire ce qui fonde respectivement l'approche des historicistes et l'approche des économistes. La conséquence d'un tel objectif saute aux yeux. Reconnaître que ces deux approches sont enracinées dans le présent, les historicistes regardent dans le rétroviseur alors que les économistes regardent vers l'horizon. Cependant, dans cette entreprise visant à conceptualiser le présent à nouveau frais, il ne faut pas oublier les objectifs que nous nous sommes fixés. Premièrement, nous devons nous rappeler que l'ontologie que nous voulons doit pouvoir s'adapter au cours du temps en se réécrivant elle-même. Deuxièmement, il nous faut nous souvenir que les effets engendrés par une cause donnée ne se produisent pas de façon simultanée en tout point du monde social. Au contraire, comme l'a suggéré Marshall, ces effets se propagent graduellement et en temps réel d'un bout à l'autre de l'espace social. À tout moment, ce mouvement de propagation, ce flux de causalité, subit l'influence des structures sociales préexistantes qui l'orientent et lui ouvrent la voie ou au contraire imposent des contraintes à sa progression. C'est pour cette raison, et je pèse mes mots, que le présent n'est jamais instantané, comme l'avait perçu Marshall dans sa distinction entre le court terme et le long terme. En même temps, il nous faut nous rappeler que notre conception du présent doit nécessairement reproduire l'apparente régularité du passé. tout comme elle doit reproduire l'apparente ouverture du futur. Voilà donc notre mission. Permettez-moi à présent de dessiner les contours de ce à quoi ressemblerait une telle approche, que j'appellerai dorénavant processualisme. Commençons par le problème de la temporalité. Tout cadre théorique visant à comprendre le monde social doit être ancré dans le présent. En se plaçant d'un point de vue newtonien, le présent, c'est tout ce qui existe. Le futur, c'est ce qui n'est pas encore advenu, et le passé, c'est ce qui est révolu. C'est depuis le présent que l'on se retourne pour regarder le passé ou que l'on regarde droit devant soi vers le futur. Et c'est au présent que se produit toute action, tout mécanisme relevant de la causalité. C'est ainsi que notre entreprise processualiste doit se doter avant toute chose d'une théorie du présent. Ce présent est constitué non de choses, mais des événements, car il n'est jamais qu'un moment. Par conséquent, le caractère continu des choses au cours du temps reste donc à établir. Le monde est donc un monde d'événements. La portée de cette déduction n'est pas que définitionnelle, elle procède également d'un problème à la logique simple. Bien que le monde social semble connaître des périodes à l'intérieur desquelles on peut mettre en évidence certaines lois régissant la vie sociale, le passage d'une période à une autre est en principe impossible à expliquer. En effet, si une situation en apparence stable peut bien être le produit de changements continus, l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas expliquer un changement d'ampleur comme étant le produit occasionnel d'une situation qui se caractérise par sa stabilité. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de véritables périodes telles que nous les avons définies. Par conséquent, l'état naturel du monde social est d'être constamment en proie au changement. Le caractère continu des choses dans le monde social n'est donc pas un fait de départ, mais bien une prouesse, le produit d'un certain lignage d'événements. Notons également qu'étant donné que le monde social est composé d'événements, on ne peut pas tant le qualifier de monde social que de processus social. Enfin, notons aussi que les humains perçoivent le temps depuis le point de vue ancré dans le présent, c'est-à-dire qu'ils font l'expérience du temps qui passe. Le temps universel est ordonné sur un axe, comme on le trouve dans la physique de Newton, n'est qu'une abstraction que nous avons créée. Dans notre effort de théorisation du monde social, nous devons toujours partir de l'expérience que nous faisons au présent du passage du temps. Ce fait, l'historicisme et l'économie en ont toutes deux presque toujours tenu compte. Par conséquent, ne passons pas par quatre chemins. En matière de temporalité, seul le présent existe. C'est pourquoi il nous faut toujours partir du présent lorsque l'on cherche à expliquer le passé ou à anticiper le futur. Le monde social est composé d'événements. C'est pourquoi, à proprement parler, il s'agit d'un processus social et non pas d'un monde social. Dans ce processus, la stabilité ne peut jamais être simplement postulée. Il faut au contraire toujours se donner les moyens de l'expliquer, et ces moyens se trouvent toujours à l'intérieur du processus social. Par conséquent, notre théorie processualiste doit prendre appui sur la temporalité telle que nous l'appréhendons, telle que nous en faisons l'expérience, c'est-à-dire en gardant à l'esprit que le temps, pour les humains, ce n'est pas quelque chose d'abstrait et d'ordonné, mais c'est le temps qui passe, tel que nous le ressentons. Comment doit-on alors se représenter le passé et le futur? Non pas comme des périodes de longue durée organisées autour d'un présent particulier, c'est-à-dire aujourd'hui, encore moins comme des récits épiques trouvant leur origine ou leur fin dans un présent plus ou moins glorieux. Non, il faut plutôt s'imaginer que le passé et le futur représentent chacun une succession de moments présents. Si l'on réexamine les traditions théoriques que nous venons d'évoquer, on se rend compte que le fondement ontologique des théories du contrat social est désormais obsolète. Il en va de même de l'historicisme. Individus et groupes sociaux ne vont désormais plus de soi. Alors que nous les concevions traditionnellement comme des entités continues, ininterrompues, nous devons désormais les considérer à nouveau frais, comme des lignages. Le lignage, c'est l'idée que certaines séquences d'événements s'alignent de façon plus ou moins perceptible, si bien que nous y voyons volontiers des individus ou des groupes sociaux. En résumé, passé à notre moulinette, la perspective historiciste en ressort changée. Ce n'est plus un postulat qui structure notre vision du monde social et de sa nature, mais c'est désormais, d'un point de vue empirique, une gigantesque énigme à résoudre. Ce champ de recherche qui s'ouvre à nous est immense. Permettez-moi maintenant d'aborder plus précisément le sujet des événements. Dire que le processus social est composé d'événements, cela paraît simple, mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? Un événement, c'est quelque chose comme être soi aujourd'hui, ou ce séminaire est en train d'avoir lieu, ou encore le statu quo du contexte politique en Afrique subsaharienne. En d'autres termes, on peut parler d'événement pour une personne, pour une entité sociale, ou même pour ce qui semble être un non-événement, un statu quo qui se maintient. Mais tout ce que j'ai exposé précédemment signifie qu'il n'y a pas de raison que le fait d'être soi aujourd'hui soit plus étroitement relié à l'événement d'être soi demain. Qu'à l'événement demain, la personne assise sur la chaise que vous occupez aujourd'hui, maintenant, se disputera avec le conférencier. Autrement dit, lorsque l'on pense à ce qui définit un événement, il faut commencer par oublier tout ce que l'on croit savoir à propos de la continuité du monde social. Un événement tel que être soi aujourd'hui est constitué de tout un lot de perceptions, de contraintes, des éléments félicitateurs ou coercitifs. Toutes ces données trouvent leur origine dans le passé immédiat. Elles sont combinées par un ou plusieurs agents qui vont à leur tour émettre un lot différent de perceptions, contraintes, d'éléments facilitateurs ou coercitifs. Ce nouveau lot de données va contribuer à l'événement d'un nouvel événement, peut-être sous l'influence du même agent qui précédemment, peut-être sous celle d'un autre agent, humain ou non. Nul besoin d'entrer dans le détail ici. Ce qui est important, c'est de reconnaître que certains de ces éléments participent à produire ce qui apparaît comme le lignage de cet agent ou de ces agents, tandis que d'autres éléments font de même pour d'autres agents. Par conséquent, un événement se définit peu ou prou par l'ensemble de conséquences qu'il engendre, et certaines de ces conséquences sont alors susceptibles de lui donner une apparence de continuité en s'inscrivant dans un lignage cohérent d'événements. Dans ce nouveau monde qui se caractérise par son caractère discontinu, les questions empiriques que l'on se pose sont elles aussi nouvelles. Comment se fait-il que les agents réussissent à assurer leur pérennité au cours du temps ? À quel moment la continuité n'est-elle qu'une illusion, une mer d'huile sur laquelle le changement bouillonne ? La continuité est-elle prévue dans le schéma directeur du monde social ? Est-elle plutôt le produit de forces qui lui sont extérieures ou de contraintes faiblement impliquées les unes dans les autres ? Ces questions, nous avons l'habitude de nous les poser lorsqu'elles portent sur les entités sociales. En revanche, c'est beaucoup moins vrai lorsqu'on s'intéresse à des individus. Mais dans le cadre de mon raisonnement, les individus ne sont rien d'autre que des entités sociales qui se trouvent à voir profiter des avantages procurés par un corps qui reste unifié malgré le renouvellement perpétuel des cellules qui le composent. Autrement, rien ne distingue les individus d'autres types d'entités sociales, une classe d'âge, une catégorie ethnique ou de sexe, une institution comme le mariage. Tout comme une entreprise, un individu peut très bien se subdiviser, on appelle simplement ça la compartimentalisation, plutôt que organisation interne par secteur d'activité. Cette perspective fait de l'étude des parcours de vie l'un des piliers de la sociologie, même si, comme nous le verrons, notre perspective met l'accent sur un aspect particulier, le fait que ces parcours de vie sont faits d'une succession de moments présents, tout aussi précaires les uns que les autres. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, je donne ce que je considère être une conférence importante. Voilà une manière de décrire simplement l'événement auquel vous assistez. Mais je ne me repose pas sur mes lauriers aujourd'hui, que je l'ai fait à l'occasion de 250 et quelques présentations académiques auxquelles je me suis livré au cours de ma vie. Aujourd'hui encore, je suis inquiète. Ces conférences, est-elle la première pierre sur le chemin de sénilité? Va-t-elle se révéler inepte, absconce, infondée, ennuyeuse? Autrement dit, je ne cesse de construire Andrew Abbott au fil de mes paroles. Il serait séduisant de considérer que tout ceci n'est qu'une performance de rôle produite par un même et unique individu. Mais c'est faux. Un événement n'est jamais isolé. Au contraire, les événements prolifèrent et se propagent dans le présent, d'un bout de l'autre à l'autre du monde social. Bien que le processus social se déroule dans une temporalité, un espace et un espace newtonien, on ne peut cependant pas appréhender le présent de manière instantanée, dans son entièreté. Certes, dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, une conférence est en train d'avoir lieu, mais à d'autres endroits de la planète, des gens sont en train de pirater le système informatique du gouvernement français, de nager dans la mer du Caraïbe, de se disputer avec les douaniers à Pékin ou de préparer un attentat terroriste à Dubaï. Quand les effets de ces activités nous atteindront, nous serons tous des personnes différentes que nous sommes à cet instant T où je vous parle. De même, quand les effets produits par ma conférence atteindront les individus qui s'adonnent à ces activités, ceux-ci ne seront déjà plus ce qu'ils étaient à l'instant newtonien où je donnais ma conférence. Dans le monde social, les causes ne sont jamais synchrones lorsqu'elles produisent des effets. La simultanéité absolue n'existe pas. C'est de manière localisée qu'il faut se représenter la manière dont cause et effet fonctionnent. Ils peuvent ainsi se situer à plus ou moins grande distance. Que la propagation des causes et des effets à travers la structure sociale soit un processus relativement lent signifie que le présent tel que nous en faisons l'expérience n'est pas un présent bien ciselé, un instant newtonien, mais bien plutôt un présent qui est épais. Les effets et les perceptions qui nous intéressent ici sont précisément ceux qui sont responsables de cette épaisseur dont nous dotons le présent. Plus généralement, le fait que le présent soit épais signifie qu'à tout instant newtonien, à l'intérieur du processus social tout entier, ce présent dont nous faisons l'expérience contient un très grand nombre d'effets rémanents. C'est-à-dire que ces effets, tels des vagues sur un lac, continuent au présent de se propager à travers le processus social, bien qu'ils aient été générés par des événements ayant eu lieu dans une conception newtonienne plusieurs présents auparavant dans un lieu à quelque distance d'ici. Du point de vue du fonctionnement du monde social, temps et espace peuvent donc être considérés comme une même et unique propriété, car si on se place sur le plan de la logique, l'un se transforme en l'autre et vice-versa. Cette propriété unique, nous pouvons l'appeler localisation. La signification d'un effet singulier, ce qu'il produit réellement sur un événement donné, dépend largement du contexte dans lequel cet effet intervient. Ce contexte, c'est l'ensemble des autres effets qui, tels de multiples vagues aux crêtes synchronisées, affectent ce même événement de manière simultanée. Dans le monde social, toute signification est donc toujours contextuelle. De plus, c'est à travers la production de lignages dans le présent que toutes ces significations et tous ces attributs sont reproduits. Par conséquent, à tout moment du présent, le danger est partout, c'est-à-dire que chaque lignage court potentiellement le risque de se voir interrompu. même la structure sociale la plus imposante et qui semble la plus solidement ancrée doit sans cesse être réinscrite à chaque fois qu'un présent devient passé et qu'un nouveau présent le remplace. En effet, les structures de ce type ne sont rien d'autre que l'état actuel des rapports entre plusieurs événements et entre plusieurs acteurs. Pour faire des choix, ces acteurs s'appuient à leur guise sur les enregistrements laissés dans le présent par ces structures sociales, si bien que tous ces rapports et tous ces enregistrements sont toujours susceptibles d'être réécrits dans le présent. Par conséquent, les entités sociales qui perdurent sont celles qui, pour une raison ou pour une autre, ont très peu de chances d'être démantelées à un moment donné. Cette façon de penser le présent permet d'arriver à trois conclusions de base. Premièrement, bien que le présent soit le site où toute forme de causalité opère, il n'en possède pas moins une géographie. Rien n'est jamais instantané, comme dans les conjectures chères aux économistes. Deuxièmement, si le présent ne peut donc être décrit comme instantané, on peut le qualifier d'épais, et il l'est plus ou moins selon le type d'action que l'on étudie. Troisièmement, du point de vue du processus social, le temps et l'espace sont d'une certaine manière équivalents. Dans les deux cas, la signification assignée à un effet donné émerge de son contexte immédiat, c'est-à-dire des autres significations qui l'entourent dans le présent. Cela signifie que tout ce qui est susceptible d'interférer avec la vitesse relative avec laquelle un ou plusieurs effets se propagent dans la société, a un impact gigantesque sur le processus social. Cela, on le constate aisément à chaque fois que les avancées technologiques dans le domaine des communications font un bond. Tout comme ma réflexion sur la temporalité, cette réflexion sur ce que sont les événements nous pousse à examiner un nouveau programme de recherche empirique. Nous devons nous concentrer sur les régions causales du présent et essayer de comprendre si ces régions sont délimitées et, le cas échéant, par quels moyens elles le sont. Nous devons également essayer de comprendre comment ce découpage en régions peut, dans le présent, être réorganisé et comment divers types d'effets réussissent à se propager à travers la structure du présent. Ce sont toutes ces questions qui forment le cœur de la réflexion écologique à propos de la causalité. Nous nous trouvons ici encore face à un nouveau programme de recherche. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que la personnalité d'un individu peut être pensée comme une entité sociale qui profiterait des commodités offertes par le corps humain, à savoir un processus unique et coordonné qui opère en suivant un langage qu'il a assimilé au contact de la société, une faculté mémorielle très performante, un stock d'expériences qui peut faire l'objet d'une rationalisation sous la forme d'un récit ou d'une biographie, un dispositif physique capable d'éprouver plaisir et douleur, et par conséquent mû par des dynamiques émotionnelles qui ne sont pas directement accessibles aux autres entités sociales, par exemple les entreprises. Ici, je renverse complètement la perspective contractualiste. Celle-ci fait de la société un type particulier de personne, Leviathan, alors que dans ma perspective processualiste, une personne est en réalité un type bien particulier d'entité sociale. Dans ma perspective, il n'y a aucune différence fondamentale entre les personnes et les entités sociales. Par conséquent, la distinction classique entre niveau micro et niveau macro est vide de sens. Contrairement à ce que notre héritage contractualiste nous incite à penser, on ne doit pas concevoir société et individu comme si on parlait de deux niveaux différents. En réalité, société et individu sont simplement deux ordres qui diffèrent du point de vue du type d'organisation qu'ils commandent. Ces ordres sont définis, au sens mathématique du terme, sur le processus social, et ils se distinguent l'un de l'autre en fonction des événements qui le composent, comme les lignes et les colonnes qui composent une matrice. Si l'on considère les événements par ligne, On voit que ceux-ci sont organisés sous forme de pures entités sociales, des catégories ethniques et de sexe, des associations, des groupes d'intérêt, des unions comme le mariage, etc. Si l'on considère les événements par colonne, on voit alors que ceux-ci sont rangés en fonction des personnalités qu'ils habitent. Ces deux ordres sont donc sur le même plan. Il n'y a pas entre de logique hiérarchique. Le corps humain, lui aussi, nous pouvons le considérer comme un exemple d'ordre défini sur le processus social. Remarquez que cet ordre n'est pas tout à fait le même que celui qui régit la personnalité des individus. Dans la mesure où la personnalité d'un individu n'est pas confinée dans les limites corporelles de cet individu, mais est tout autant localisée dans les attentes qu'autres personnes ont vis-à-vis de cet individu. En suivant un raisonnement analogue, on peut caractériser la culture et plus généralement tout ce qui relève du symbolique comme un autre exemple d'ordre défini sur les événements qui constituent le processus social. Puisque l'existence tout entière d'un être humain est médiée par des symboles, on peut concevoir les corps, les personnes et les entités sociales comme la façon dont des symboles produisent d'autres symboles, de la même façon que l'on peut concevoir les symboles comme la façon dont des corps produisent d'autres corps, dont des personnalités s'établissent, et ainsi de suite. L'analyse peut porter sur n'importe lequel de ces ordres, et dans ce cas, nous pourrions analyser aussi les moyens par lesquels les autres ordres le facilitent, le contraignent ou effectuent d'autres types d'actions le concernant. Ce qui est important, c'est que dans le processus social, il n'y a pas de niveau, mais seulement des ordres. L'existence de niveaux hiérarchisés entre eux est une illusion qui nous vient du contractualisme. Dans cette perspective bâtie autour du concept d'ordre, l'opposition micro-macro cesse de poser problème. Micro et macro sont hiérarchisés, mais cette hiérarchie est toute relative en ce qu'elle dépend du type d'investigation que l'on mène. Si l'on étudie les caractéristiques démographiques des membres de telle ou telle profession, la profession en question est macro et les membres sont micro. Si l'on étudie en revanche la façon dont les individus qui composent une génération donnée vivent leur vie professionnelle, on se retrouve dans le cas inverse. Disposer d'un concept comme celui d'ordre est libérateur. En effet, il nous permet de penser plus formellement le concept de lignage, c'est-à-dire ce qui assure, dans le cadre d'un ordre donné, la continuité au cours du temps des entités qui le composent. J'ai défendu l'idée que ce que nous avons traditionnellement appelé les unités du monde social, les individus et les structures sociales, sont en réalité des lignages d'événements. Pour comprendre comment de tels lignages sont formés, il nous faut étudier la temporalité dans les deux directions possibles, c'est-à-dire qu'il nous faut nous pencher à la fois sur la question de l'historicalité et sur celle de l'anticipation. Le terme d'historicalité renvoie aux moyens par lesquels, sans jamais s'arrêter, le passé s'inscrit de manière continue, présent après présent. L'historicalité est quelque chose d'exogène dans la mesure où elle est localisée dans d'autres ordres que l'ordre des individus ou celui de la société. Dans tout corps est contenu l'enregistrement des maladies qui l'ont affecté et des réponses immunitaires qu'elles ont provoquées, et cela sans aucun mécanisme social n'ait besoin d'intervenir. Un bâtiment conserve sa forme dans le temps, et à travers cette forme, il impose des contraintes quant au type de structures sociales qui pourront y trouver place. D'autres types d'enregistrements sont, quant à eux, endogènes à l'ordre de la société, à l'ordre des individus. L'enregistrement passif des transactions financières, les souvenirs d'un individu, la production volontaire d'archives dans un cadre institutionnel. Mais le processus le plus important est celui que l'on pourrait qualifier d'encodage. Il s'agit du processus par lequel des actions en cours à un moment T modèlent et remodèlent la réponse à la question suivante. Dans l'itération du présent qui suivra immédiatement ce moment T, qui va interagir avec qui et à propos de quoi? lorsque j'évoquais précédemment le fait que dans chaque prison est en danger la pérennité des structures sociales, y compris celles qui sont les plus solidement ancrées, c'est à cette opération d'encodage que je faisais référence. Toute structure sociale d'importance n'est rien d'autre qu'un réseau composé de connexions et de causes opérant dans le présent. En principe, si l'on réorganise ces connexions, on peut faire disparaître n'importe quelle structure sociale. Certaines de ces structures sont très vulnérables vis-à-vis des opérations de désassemblage. Ce sont les structures qui comprennent des lions faibles, pour reprendre le célèbre concept de Marc Ganovater. D'autres structures le sont beaucoup moins. Les structures qui paraissent indestructibles doivent leur solidité à des connexions qui passent par des liaisons indirectes, très nombreuses et de nature très diverse, chacune de ces liaisons pouvant faciliter la formation d'un lignage. Ainsi, le modus operandi de l'historicalité, c'est-à-dire ce qui constitue la matière brute des lignages, représente un immense domaine à déchiffrer pour la recherche en sciences sociales. Comme le suggère l'exemple que je viens de prendre, de nombreuses structures, et notamment celles qui comptent parmi les plus solides du monde social, n'ont rien en commun avec la description épique et spectaculaire que fait Marx des classes sociales. Au contraire, il s'agit bien plutôt de structures mal délimitées qui peuvent être formées de mille et une façons. Les conférences, par exemple, comme celle à laquelle vous assistez en ce moment, en sont un bon exemple. Et ceci, même si la récente conversion aux présentations PowerPoint a beaucoup fragilisé la structure sociale qui est l'art de donner une conférence. Cette fragilisation a coïncidé précisément avec l'avènement de cet outil technologique extrêmement standardisé, et qui s'est imposé en rendant obsolète l'ancien outil technologique qui consistait à se planter devant un auditoire et à se débrouiller pour disserter sur un sujet. Un autre champ de recherche ouvert par ces perspectives porterait sur les modalités par lesquelles des structures en apparence solide peuvent être détruites. Quel type d'action est-il nécessaire d'entreprendre? Comment les acteurs doivent-ils se coordonner? Et ainsi de suite. Faute de temps, je suis contraint de survoler l'analyse des rapports qu'entretient le présent avec le futur. Je me contenterai simplement de dire que cette analyse est tout à fait complémentaire de celle des rapports que le présent entretient avec le passé et que je viens d'exposer. Le cadre analytique est le même, si ce n'est qu'il est inversé, et un grand nombre de déductions que j'avais tirées s'appliquent également. La différence majeure réside bien évidemment dans l'ouverture du futur vis-à-vis de nos actions, si bien que ce sont précisément nos actions qui le feront advenir. Je veux dire par là que celles-ci vont prendre ce qui n'est à l'heure actuelle que rêve et peur, et les transformer en des réalités dans le présent à venir. Mais si Marshall avait raison quant au caractère ouvert du futur, il s'est trompé en pensant que l'on pouvait ignorer la nature systématique des contraintes qui pèsent sur nos possibilités d'action. En même temps, si Marx avait raison de dire que dans l'histoire, les hommes n'ont pas agi à leur guise et au gré de leurs envies, il a néanmoins commis, en bon historiciste, une erreur, celle de surestimer le poids de tout ce que les générations antérieures nous ont légué. Toutes ces traditions représentent un cauchemar pour Marx, mais c'est un cauchemar très rapidement oublié. L'approche processuelle apprécie ce cauchemar à sa juste valeur. Nous jouissons toujours d'une certaine liberté dans le présent, et le futur que nous dessinons peut, de manière surprenante, avoir un caractère inédit. Dans le processualisme, le problème du poids des structures versus capacité d'agir des individus n'existe pas. Un processualiste considère tout simplement que les actions émanent toujours d'un lieu particulier dans l'espace social. De plus, le processualisme met l'accent sur un fait évident si on se penche sur notre histoire. La rapidité étonnante avec laquelle la société, du moins la société moderne, se réécrit elle-même, ou une couche venant rapidement remplacer la précédente. L'approche processuelle met ainsi fortement l'accent sur l'action morale au présent. En effet, approcher le monde social en processualiste nécessitera de repenser de fond en comble les théories de justice, de la justice. Car lorsqu'on réfléchit à la justice, les entités qui sont précisément en jeu, qu'il s'agisse d'individus, d'entités sociales, sont en perpétuel mouvement. Lorsque le présent s'écoule, ce sont jusqu'aux valeurs elles-mêmes qui sont démantelées et recomposées. Voilà pourquoi l'approche processualiste pose un défi aux positions traditionnelles au sujet des faits et valeurs. Le statut de l'historicisme et de l'économie devrait désormais être clair. Chacune de ces approches représente un cas particulier d'application d'une théorie processuelle du présent. L'historicisme est une vision du processus social qui présuppose activement le caractère continu des entités sociales et qui cherche principalement à remonter aux origines de la structure sociale qui existe dans le présent. L'historicisme fait preuve d'une grande valeur heuristique lorsqu'elle rend compte de cette structure. En faisant abstraction du futur, les historicistes sont en mesure de percevoir à quel point toutes les routes mènent au présent que nous connaissons, et même à quel point les possibilités qui s'offrent à nous sont façonnées par les contraintes qui pèsent sur nous dans le présent. Mais l'historicisme n'a rien à dire au sujet de l'avenir. L'économie, elle aussi, présuppose activement le caractère continu des entités sociales, mais elle considère les actions ayant lieu dans le présent comme des moyens de dessiner un futur particulier. En ne s'intéressant qu'aux contours des structures léguées par le passé, l'économie prédit avec une grande précision les actions qui sont sur le point d'avoir lieu, notamment car elle a été inculquée comme une idéologie et par conséquent se vérifie de façon performative. Mais elle ignore absolument les origines des préférences qui sont les causes centrales du futur. Elle ne s'occupe que des moyens par lesquels ces causes opèrent. Ainsi, l'historicisme et l'économie contemporaine sont en réalité des cas particuliers de l'approche processuelle. Maintenant que nous avons établi les fondements de cette approche, nous pourrons, dans la conférence de lundi prochain, commencer à l'appliquer à notre problème des faits et des valeurs. Nous commencerons alors par une étude de cas qui est en même temps une étude substantive. Nous appliquerons la perspective processualiste à deux textes qui saisissent de la façon la plus rigoureuse qui soit cette séparation entre faits et valeurs. Ces textes, ce sont les deux célèbres conférences de Max Weber, « Le métier et la vocation de savant » et « Le métier et la vocation d'homme politique ».